Oui, comment est ta peine? C'est la question qu'on a envie de poser à Sacha quand on referme le roman, la version qui n'intéresse personne. Sacha étant l'héroïne du roman signé Emmanuelle Pierrot, qui est au bout du fil. Bonjour, Emmanuelle.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vraiment un honneur pour moi de vous parler parce que je suis encore dans votre roman que j'ai lu en fin de semaine. Et vraiment, c'est un roman qui tord le cœur. Les critiques sont extraordinaires. Vous êtes même en lice pour le prix littéraire des collégiennes, collégiens. Félicitations.
Merci, merci beaucoup.
Emmanuel, d'abord, parlez-nous un petit peu de vous, de votre trajectoire. Vers quel âge l'écriture s'est imposée à vous?
Ouais, le récit s'est imposé à moi avant même que je sache écrire. Là, je me souviens que j'étais beaucoup plus intéressée par le monde imaginaire que par le monde réel. Puis à un moment donné, on m'a appris à écrire là. Puis je me suis mis à faire ça tout le temps. J'aimais lire, mais tu sais, j'aimais lire surtout en me disant comme ah, moi j'aurais une histoire aussi à raconter.
Ah oui, ah
Comme
oui.
ouais. Puis là, je suis partie au Yukon quand j'avais. Ben, je suis partie dans l'Ouest quand j'avais à peu près 17 ans. Puis j'avais plein de carnets de voyage. J'écrivais tout le temps, mais j'avais pas nécessairement l'ambition de publier. Puis c'est vraiment c'est plus tard que m'est venue l'envie de partager mon travail.
Et Emmanuel, comme Sacha, donc le personnage principal de votre roman, elle a 18 ans dans le roman. Vous dites que vous aviez 17 ans quand vous êtes parti au Yukon. Vous avez, comme elle, donc emménagé à Dawson City. Qu'est-ce qui vous a attiré là-bas?
Ouais, ben c'est ça. En fait, je suis partie à 17 ans dans l'Ouest pour cueillir des cerises,
OK.
puis avec mes amis. Puis j'étais vraiment une très mauvaise travailleuse. C'est à la production là, donc je faisais pas d'argent. Puis l'année d'après, fait que je suis revenue au Québec, j'étais allée finir mon secondaire. Puis là, je suis repartie. Puis j'ai fait des allers-retours comme ça quelques fois là avant de trouver le Yukon. J'ai trouvé le Yukon à 18 ou 19 ans. Puis là, c'était le paradis pour moi parce que en fait là-bas, c'est facile de travailler. C'est facile de travailler pour quelqu'un qui travaille pas super bien.
Qu'est-ce que vous
C'est
voulez
comme
dire?
je travaille lentement. Fait que moi, c'est mieux que je sois payée à l'heure, sinon je vais crever de faim.
Ouais.
Fait que ça marchait pas, tu sais, les jobs dans les champs où tu es payé à la production. Puis au Yukon, ils ont toujours besoin d'employés, en fait. Fait que j'étais femme de chambre, j'étais plongeuse, j'étais serveuse. Puis les gens étaient patients avec moi. J'ai l'impression qu'ailleurs dans le Canada, si t'es pas très bon à ta job, tes employeurs sont pas si patients que ça, là. Il y a d'autres gens qui vont prendre ta place
Ouais.
rapidement.
La
Ouais.
performance est importante.
Oui, et je déteste la performance, donc
Oui.
c'est ça.
Alors, la version qui n'intéresse personne, là, pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore lue, comment vous résumeriez votre roman?
Oui. Ben, c'est inspiré des années que j'ai passées au Yukon, puis de beaucoup de réflexions que j'ai eues sur ma communauté. Tu sais, j'ai rapidement voulu aller vers des gens qui étaient pas qui se sentaient aussi désinsérés socialement que moi, là, comme en marge de la société. Puis on avait des idéaux, on avait des valeurs, on avait des choses qu'on voulait changer dans le monde. Puis c'était magnifique, mais c'est difficile. Puis c'est difficile de déconstruire des choses qui sont tellement profondément ancrées en nous, surtout quand on vit de la précarité. Puis au Yukon, on en vivait de toutes sortes de façons différentes, avec l'isolement, avec le chômage qui est comme 8 mois par année,
Les
les températures
difficultés de vous
extrêmes,
loger aussi.
ouais, les difficultés de se loger. Qui sont encore pires
Là-bas.
maintenant que je suis à Montréal. Non, je pense que c'est pire à
OK.
comme je pense que c'est pire à Montréal. Mais oui, fait que là, il y a toutes ces choses-là. Parfois des problèmes de dépendance, des traumas d'enfance, plein de choses. On n'a pas nécessairement les outils pour se guérir. Puis là, on est là, puis on essaie de faire quelque chose de mieux. Puis à un moment donné, les personnages y atteignent une limite. Où ils vont. ils vont commencer plutôt à perpétuer certains schémas qu'ils ont essayé de déconstruire dans leur vie, comme la misogynie, là, c'est des grands mots qui sont jamais nommés dans le livre, mais le rejet social, tu sais, d'avoir un bouc émissaire, il n'y a aucune communauté qui est à l'abri de se trouver un bouc émissaire quand la marde appogne.
Ouais.
Puis c'est un peu l'histoire de, ouais, de plein d'idéaux qui vont être perdus de cette façon-là, mais aussi je voulais quand même que ce soit un hommage, je voulais que ce soit rempli d'amour. Il y a des gens qui l'ont ressenti, cet amour-là, mais c'est pas tout le monde. Je me suis aussi fait accuser que le livre était un règlement de compte, alors que c'est pas du tout ça que je voulais faire. Fait que maintenant, ça m'appartient plus. T'sais, c'est un objet dans le monde que les gens vont recevoir comme ils veulent.
Est-ce que ça vous, je sais pas, est-ce que ça vous choque, est-ce que ça vous heurte d'avoir des commentaires auxquels vous ne vous attendiez pas, vous dites comment ça se fait que cette personne-là a compris de telle façon plutôt que à ma façon, où vous avez confiance au lecteur, où vous dites mais justement l'œuvre ne m'appartient plus.
Je sais pas pourquoi, mais je savais que personne allait comprendre tous les mots de la même façon. Fait que j'ai pas été nécessairement si surprise que ça. J'ai eu une super belle équipe d'édition, là. On a réfléchi aux phrases ensemble avec Alexis Morin, mon éditrice. Puis,
le Cartanier.
Le Cartanier, ouais. Tu sais, c'est des gens qui sont attachés aux mots. Fait qu'on a eu beaucoup de réflexions. On a pris notre temps pour dans la réécriture puis le processus d'édition. Puis maintenant, je pense que je suis bien aujourd'hui avec ce qui est sorti. C'est sûr que j'en vois des choses que j'aimerais changer. Là, moi, quand je relis le livre, là, c'est impossible. Là. Je note plein d'affaires. Puis là, après, je leur arrive. Puis ils sont comme, on peut rien faire. Tu feras mieux au prochain livre. Mais tu sais, dans la réimpression, on va pas changer des paragraphes. Là. Fait que, c'est ça. Je suis mitigée. Je comprends que les gens vont le comprendre comme ils veulent. Moi, je voudrais toujours éditer ce livre-là et probablement tous les autres. Mais en ce moment, je canalise mon énergie en écrivant un autre projet.
Ah oui, vous êtes déjà en train d'écrire quelque chose d'autre.
Oui, puis comme que les lacunes que je vois, parce qu'il y en a des pourquoi qu'on parle des... En tout cas, ce que j'aurais voulu changer dans le livre qui est sorti ne changera jamais. Fait que dans le prochain livre, ça va être autre chose. Il va sans doute avoir ses vulnérabilités à d'autres endroits, mm-hmm. Si j'ai appris un peu.
Ah oui, bien, à vous entendre, c'est sûr que vous avez appris. Mais Emmanuel Pierrot, est-ce que vous êtes quand même fière de votre premier roman? Parce que là, vous avez l'air d'être assez critique envers vous, mais c'est bon signe, là, parce que vous êtes une vraie créatrice, puis on n'est jamais contente quand on est des créateurs ou des créatrices.
Exactement. Je suis vraiment fière de moi. Là. C'est comme une immense montagne que je m'attendais jamais à grimper. Là, puis on est arrivé là, le livre est sorti, il y a eu plein de commentaires positifs, puis... Tu sais, j'ai vraiment fait ça avec tout mon cœur puis toute mon âme, puis là c'est y a eu une réponse. Tu sais, j'aurais pu donner tous ces efforts là puis qu'il n'y ait pas de réponse. Fait que aussi le fait qu'il y ait du monde qui sont embarqués puis que ça les a touchés, c'est un miracle. C'est vraiment vraiment cool. Puis oui, tu sais, comme pour ceux qui écoutent, c'est un bon livre, allez l'acheter.
Oui, oui.
Je ne veux pas faire de la mauvaise publicité au livre.
Non, pas du tout. C'est pas comme ça qu'on le comprend, de toute façon, Emmanuel Pierrot. Non, il faut lire ce livre. C'est un livre qui tord le cœur quand même, mais c'est vrai qu'il y a des éclats. Quand on lit attentivement, oui, il y a de l'amour et il y a aussi de la poésie. Parce que la poésie, ça vous touche, vous, Emmanuel?
Oui, mon Dieu. Je voudrais tellement être poète, mais... À date, on me dit toujours de... J'ai de la misère à écrire des poèmes qui sont bons, qui sont clairs, puis qui touchent les gens. Fait que j'ai essayé toute ma vie là, d'en écrire, puis je vais continuer d'en écrire. Mais oui, avec ce projet-là, c'est un recueil de poésie à la base. Puis la plupart des personnes à qui je l'avais fait lire, à un moment donné, ils atteignaient une espèce de... on comprend plus où tu t'en vas. Il y a des personnages, mais c'est un recueil de poésie. Il y a de la narration, mais il n'y en a pas assez parce que c'est de la poésie. Puis, avec Alexis Morin, on avait discuté, puis elle m'avait proposé d'essayer d'écrire en prose cette histoire-là. Ça avait été proposé, en tout cas, elle m'a proposé ça, on l'a fait, je l'ai fait, je suis revenue avec un manuscrit beaucoup trop long. Puis, parce que c'est comme 60 pages, puis là, c'est devenu 300 pages, fait que ouais, ça a marché comme stratégie. Puis je pense que en ce moment dans ma vie, j'arrive plus à toucher les gens avec la prose. Mais je vais continuer d'écrire de la poésie parce que j'adore ça.
Quand vous parlez d'Alexis Morin, vous parlez de l'autrice?
Alexis Morin, c'est mon éditrice. Puis fait que c'est la personne non, l'autrice. C'est moi. Mais
Non, Alexis, je sais, mais c'est parce que j'avais l'impression que celle qui avait écrit Ouvrir son cœur s'appelait Alexis Morin, mais je...
Oui, exactement. C'est l'autrice d'Ouvrir son cœur. Elle travaille au Cartani, puis c'était mon éditrice.
D'accord, parce qu'il y a une parenté entre vous et elle, parce que vous ouvrez votre cœur aussi dans ce livre-là.
Oui, exactement. Puis tu sais, une des raisons pourquoi j'avais envoyé mon manuscrit au Cartani à la base, c'est parce que j'avais lu Ouvrir son cœur.
Ah oui.
C'est une histoire de rejet social aussi. Mm-hmm. Puis j'avais vraiment trouvé ça intéressant. Les commentaires sur Ouvrir son cœur, souvent il y avait des gens qui avaient, même s'il y avait de la misère à s'attacher à la protagoniste, ils trouvaient ça inacceptable, le traitement qu'on lui réservait. Puis moi, je voulais aussi que mon livre porte cette vérité-là, que c'est pas parce que quelqu'un a une voix gossante ou que tu le trouves un peu lâche ou pas travaillant ou pas fiable que tu peux le déshumaniser, tu sais. C'est beaucoup plus complexe que ça, là, mais je voulais pas faire un personnage qui était nécessairement attachant pour tout le monde. Je voulais qu'il y ait des gens qui la trouvent vulgaire, qui trouvent qu'elle a pas qu'elle couche un peu à gauche à droite ou qui respecte pas nécessairement tous ses choix de vie, mais qu'on se pose quand même la question, est-ce qu'elle mérite autant de violence sociale?
De mauvais traitements, de...
Exact.
Ouais. Pourquoi vous l'avez écrit, ce roman-là, Emmanuel?
Parce que je suis écrivaine. Comme dans le sens, il m'aurait arrivé, si j'avais vu des licornes puis des girafes créer une société en dessous de l'océan, j'aurais parlé de ça. Parce que j'aime ça écrire en m'inspirant de ce que je vois. Puis là, c'est ça que j'avais en moi qui m'habitait.
Oui, puis
avant,
sur
d'autres choses.
Et quand vous l'avez écrit, est-ce que vous pensiez à un public cible en l'écrivant?
En l'écrivant, non, parce que je suis pas capable de penser à plus qu'une chose à la fois.
Ouais.
Mais maintenant qu'il est écrit, je trouve ça... Je pense que, tu sais, déjà, les premières personnes dont j'ai reçu le feedback, c'est des gens, des femmes qui ont vécu des choses similaires dans vraiment toutes les sphères de la société, là, puis dans toutes les communautés à l'âge adulte, parce que je pense qu'on parle de ce phénomène-là à l'adolescence, dans les écoles, puis tout, puis on oublie que les adultes aussi, à tous les jours, vont être victimes peuvent être victimes de rejet social, d'intimidation. J'avais pensé à Catherine Dorion puis à Sofiane Alain parce que je savais qu'elle vivait des choses à une toute autre échelle qui était similaire à ce que Sacha vivait. Puis je voulais absolument que ces femmes-là lisent le livre, fait que je leur avais envoyé avant qu'ils sortent.
Ah oui? Et puis est-ce que vous avez eu des réactions de leur part?
Oui, j'ai eu des réactions qui m'ont fait brailler là, des deux côtés. Tu sais, là, Catherine a sorti son livre, puis aussi, j'ai vraiment très hâte de le lire. Mais oui, d'abord par sororité, pour toutes les femmes qui vivent ça, et aussi les personnes, là, parce que tout le monde peut vivre ça. Puis après, c'est sûr que il y a, tu sais, des gens dans ma famille, par exemple, qui n'étaient pas nécessairement... au courant de ce que ça peut être le slut-shaming ou la misogynie systémique des hommes, que je voulais qu'ils le lisent en me disant que peut-être que ça allait ouvrir certains horizons. Puis effectivement, j'ai reçu le feedback de beaucoup d'hommes qui semblait comprendre un peu mieux ce que pouvaient vivre des femmes dans des milieux, dans des petites communautés ou des milieux de travail.
Mais tant mieux si ça provoque ça. Tant mieux si ça provoque ça.
Je suis vraiment contente.
Oui, parce que j'avais lu aussi qu'il y a certains hommes qui avaient été choqués, mais peut-être choqués dans le bon sens, dans le sens que ça les fait réfléchir, lire votre roman, tout ce que Sacha va vivre de façon totalement injustifiée.
Oui, mais c'est ça. Il y a beaucoup... J'ai eu des commentaires d'hommes qui me disaient qu'il y avait de la misère à finir le livre, qu'il y avait de la misère à continuer parce que c'était comme... c'était plus un éveil. C'est comme s'ils se rendaient pas compte qu'on pouvait vivre ça, alors que les femmes à qui j'ai parlé se sentaient validées, mais se sentaient pas dépaysées du tout, tu sais.
Ouais.
Soit elles ont été témoins de ça, soit elles l'ont vécu, ou soit elles savent instinctivement que ça peut leur arriver si elles dérogent à la aux règles non écrites. Fait que c'était vraiment des réactions genrées que j'ai reçues.
Et Emmanuel, vous avez, je ne sais pas si c'est vous qui avez trouvé le titre, mais c'est tout à fait. On se demande quand on commence pourquoi la version qui n'intéresse personne. Et plus on avance dans le livre, plus on comprend le titre. Est-ce que ça a été spontané la trouvaille de ce titre?
Oui, ben dans le fond, quand j'avais remis mon recueil de poésie, il y avait une partie à la fin qui était déjà en prose, un 20 pages de prose, qui s'appelait la version qui n'intéresse personne. Puis c'était un peu les coulisses des poèmes, c'était pour presque les justifier ou les expliquer. Puis on m'avait fait remarquer que c'était beaucoup plus intéressant que les poèmes. Donc c'est à partir de ça que j'ai écrit le reste du... C'était comme le germe dont que tout le reste du roman a parti. Puis ça s'appelait la version qui intéresse personne. Fait qu'on a gardé ce titre-là.
Et quelle est la version qui n'intéresse généralement pas les gens?
La vérité. Très, très, très simplement, je dirais ça, parce que... Mais on le voit aussi, tu sais, les gens qui doivent dealer avec les médias, là, comme je vais renommer Catherine Dorion puis Sacha Nolin, j'ai l'impression que c'est ça aussi qu'elle dénonce quand on les écoute, c'est qu'il y a comme il y a la vérité qu'il faut aller chercher en demandant aux gens qui étaient présents qu'est-ce qui leur est arrivé. Puis après ça, ça passe dans une espèce de machine qui est, tu sais, mettons, dans le cas à Sacha, c'est vraiment c'est le village, là. Fait que ça va être le bouche à oreille, puis
la rumeur.
La rumeur, après les posts Facebook, les statuts Facebook, les pages de la communauté. Puis là, tout ça crée un narratif qui est complètement à côté du narratif réel. Puis les gens, on voudrait, puis on croirait que les gens vont aller vérifier avec les personnes concernées c'est quoi qui s'est réellement passé, puis ils font jamais ça dans le livre. Puis aussi, je pense souvent dans la réalité, je voudrais voir plus de gens faire « OK, attends, je reçois une version de troisième main, je me sens impliquée dans cette histoire-là, je vais aller vérifier avec les personnes concernées qu'est-ce qui s'est réellement passé. » Puis je comprends pas pourquoi on le fait pas. Puis quand t'es la personne qui crave, tu sais, de raconter ce qui s'est réellement passé parce que toi, t'étais là, puis ton récit est complètement changé, puis tourné, puis c'est reviré contre toi, tu veux dire la vérité, puis là, mais cette vérité-là, tout le monde s'en fout. Puis c'est comme le sentiment d'absurdité qui frappe à ce moment-là, il est immense. Puis ça, je voulais le faire vivre au lecteur, parce que pourquoi on n'écoute pas les gens qui étaient là si en plus on veut les juger, mais on veut pas les entendre?
Vous terminez cette entrevue avec la question, et puis je pense qu'on a envie d'aller en savoir plus en découvrant évidemment votre premier roman et aussi en allant à votre rencontre, puisque vous allez participer au Salon du Livre de Montréal. Est-ce que c'est votre premier Salon du Livre à titre d'invité?
J'ai fait le Salon du Livre de Rimouski et de l'Estrie.
OK. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que c'est des expériences que vous appréciez?
Oui, j'aime vraiment ça. C'est beaucoup d'interactions sociales en peu de temps, mais c'est vraiment le fun. D'aller à la rencontre des lecteurs puis des gens qui sont passionnés de littérature aussi. C'est que ça va être... Oui, j'ai bien hâte.
Alors, ça va se passer pour vous. Le salon commence le 22, mais vous y serez les 23, 24, 25 et 26 novembre, presque toute la durée du salon Palais des Congrès. On vous le rappelle, il y aura des dédicaces. Et vous allez aussi participer à une table ronde. Régler des comptes, point d'interrogation. Alors, oui. Merci beaucoup de votre générosité, merci. Emmanuelle Pierrot. Ça a été un plaisir de vous entendre. Et je rappelle que votre roman, La version qui n'intéresse personne, est publié aux éditions Cartanier. Bonne suite.
Merci, bonne journée.
Vous aussi.